Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 30 juillet 2025. On se retrouve pour la quasi-clôture du mois avec un Bitcoin à 117 900 dollars ce matin, à l'équilibre 2350 milliards de capitalisation, un Ether à 3008 et 460 milliards de cap, pareil à l'équilibre plus 53% sur le mois, tandis que Bitcoin n'a progressé lui que de plus 9,53. On voit que du côté des alts encore, on commence à avoir des petits reculs, notamment XRP qui avait bel et bien progressé de 40% sur le mois, mais en recul de moins 11% sur la semaine. Et c'est plus ou moins comme ça, un peu disparate entre le journalier et l'hebdo. On n'a que Tron qui reste dans le vert, mais qui est à plus 21% sur le mois. Et ça reste difficile de trouver à présent une ligne dans l'intégralité dans le vert. On a le Toncoin également, 18e place, 8 milliards de cap, 16% sur le mois. Et on voit que rares sont ceux qui ont progressé de plus 40, plus 50, voire plus du côté du mensuel. On avait Ethena qui nous a imprimé un fois 2, on a eu 150% également du côté des Pudgy Penguins, et on clôture le top 50 avec des mêmes coins, Official Trump et SPX 6900, qui sont autour de 1,8-1,9 milliards de capitalisation. On voit que ça a légèrement reculé, puisqu'au moment où tout était en train de monter, on était plutôt entre 2 et 2,1 milliards pour la fin de ce top 50. Donc on sent que aux abords du mois d'août, eh bien les choses sont en train de se poser, et c'est pas le 4 heures sur Bitcoin qui nous dira le contraire, puisque on est dans un range depuis approximativement le 11 juillet. Ça fait quand même une bonne vingtaine de jours. On était venu chercher quasi les 124 000. On avait fait un point bas de range pour l'instant autour de 115 000 sur ce 25 juillet 2025. Est-ce qu'on va avoir besoin de revenir travailler autour des 110 000, 112 000 ou est-ce qu'on viendra chercher de nouveau cet excès des 120 000, 125 000 pour peut-être de nouveau être repoussé? En tout cas, le mois d'août risque de s'ouvrir sur un petit peu de volatilité, et on verra pourquoi dans un instant. Le Crypto Fear and Greed 74, toujours bloqué quasiment dans cette fourchette des 70-75. Il ne se passe pas grand chose. On n'est pas dans l'extrême euphorie qu'on aurait pu connaître si on avait une alt season du côté des altcoins, mais on a eu quand même un petit peu de jus qui est rentré, la Bitcoin dominance qui a lâché quelques points. Donc voilà, c'était encourageant pour cet été, mais tout va se jouer, vous vous en doutez bien, autour de la rentrée en septembre-octobre, et avec potentiellement à cheval sur cet automne 2025, la terminaison du cycle de 4 ans, pour ceux qui croient encore au cycle en tout cas, puisque petit à petit, il y a pas mal de gens qui disent bon, que le cycle serait terminé. En tout cas, avec Eric Balchounas, on part du côté des news, la SEC qui approuve donc la position limite et les options pour IBIT au niveau de l'ETF de BlackRock, pour des positions qui iraient de 250 000 dollars. Donc c'est une augmentation de x10, et surtout c'est en train de bouger du côté de tout ce qui était approbation de staking ETF. Ils avaient modifié, souvenez-vous, tout ce qui était contractuel à ce niveau-là, et la SEC est en train de repasser dessus, ce qui ferait qu'on aurait des ETF Ether par la suite qui pourraient inclure le staking, et ça changera la donne pour la suite, puisqu'on aura un rendement au sein même d'un ETF qui pour l'instant était flat, c'était un ETF pur spot, et on n'incluait pas ce rendement du staking on-chain qui aujourd'hui, selon où l'on regarde, est autour de 2%. Il y a directement sur le site de Ether, ils disent 2,8-2,9. Je pense qu'il vaut mieux se fier à Coinbase aujourd'hui qui annonce 1,95 pour le staking Ether. En tout cas, par rapport à ce que mettait également en avant Solid Intel, on a la possibilité désormais de faire des swaps, des redemptions en direct vis-à-vis de Bitcoin ou de Ether via ces ETF. Donc je ne sais pas ce que ça peut apporter de plus, si ce n'est la facilité en effet de swapper de Bitcoin vers Ether, mais pour l'instant ça s'annonce plutôt pas mal si tout ça venait à être validé. Puisque récemment on a vu qu'on avait aussi pour Solana par exemple les ETF qui étaient repoussés continuellement. On a la deadline maximale qui doit être autour de décembre si je dis pas de bêtises, donc attention aussi qu'un jour on n'ait pas un peu un retour de bâton de ce côté là et que la SEC n'approuve pas l'intégralité des ETF qui ont été soumis. Avec Journal du Coin et MicroStrategy, nouvellement stratégique, annonce la clôture et l'intro en bourse de son action préférentielle STRC pour un montant de 2,5 milliards de dollars, soit la plus importante introduction en bourse aux États-Unis en 2025 selon l'entreprise. Strategy qui aurait utilisé ses fonds pour acquérir 21 bitcoins supplémentaires à un prix moyen de 117 256 dollars. Ça fait rêver, c'est la fuite en avant, c'est la stratégie de MicroStrategy, mais je ne sais pas au long terme ce que ça va donner concrètement. On avait cette vieille vidéo de Sylvain Durif, le Chris Cosmic, le grand monarque pas peu Pierre et je ne sais quoi, qui nous parlait donc de Terra Luna, c'était en 2022. Je suis retombé sur de très vieilles archives et notamment mes tout débuts en crypto entre 2017 et 2018, avant que CM trouve le jour début 2019. Je vous publierai une petite série de vidéos par la suite, notamment quand j'ai commencé avec le minage, c'était plutôt marrant. On avait Onchain, The Rational Route, qui nous parlait du Bitcoin Onchain justement pour la value map, avec, on voit sur les cycles précédents, la borne haute extrême qui a peiné à être touchée. On l'avait eu en 2021 sur le premier top ici, mais par la suite, on voit qu'on n'est jamais revenu sur la borne haute. La médiane se trouverait autour de 146 000 aujourd'hui, l'extrême autour de 185 000. Là aussi, je vous invite à être plutôt, on va dire, prudent sur les targets de fin de cycle, puisque une fois de plus, à la fois pour Bitcoin, on ne sait pas de combien il peut se gratifier supplémentaire quand on voit à quel point on a que des bonnes news actuellement et le cours qui ne progresse plus. Vous allez me dire, il ne baisse pas non plus, ce qui est une bonne nouvelle, il est vrai, mais voilà, qu'est-ce qui va nous permettre justement de passer de 120 à 130 à 140 à 150 voire à 180 pour les plus optimistes? C'est plutôt ça la question. Et deuxièmement, est-ce que l'altseason va pointer le bout de son nez? Pour l'instant, on a eu que des rattrapages comme vous l'avez vu du côté des altcoins, mais on n'a toujours pas d'euphorie qui pointe le bout de son nez. On va en discuter dans un instant au niveau de l'analyse technique, la saisonnalité du VIX qui, depuis quelques jours, voire quelques semaines, travaille très très bas en termes de volatilité pour le S&P 500. C'est historiquement un momentum qui peut amener à pas mal de volatilité et je suppose qu'au vu des indices qui actuellement sont en découverte de prix et sont en train de faire nouveaux ATH sur nouveaux ATH, ça pourrait être de la volatilité négative, vous vous en doutez bien. Donc on va observer tout ça ensemble, mais c'est vrai que quand on voit le VIX, et notamment en hebdomadaire ou en mensuel, à chaque fois qu'il fait des pics énormes, eh bien ça peut être un point d'entrée qui est assez remarquable pour le long terme. Et pareil, quand on est sur un point bas de volatilité, comme le mettait en avant ici également Donovan Jackson, eh bien on a des retours de volatilité qui peuvent être assez conséquents pour le coup, pour ceux qui jouent en tout cas cet indicateur de volatilité. Attention également, en ce moment, du côté des validateurs Ethereum, on a une queue assez impressionnante. Je crois qu'on était autour de 25 000 personnes qui attendaient pour sortir du staking justement. Est-ce que c'est en train de bouger au niveau des lignes, notamment par rapport aux ETF qui plus tard pourraient inclure du staking? Voilà, il y a des cartes aussi qui sont en train d'être redistribuées behind the scene, comme disent les Anglais, du côté de Ethereum. Il va falloir surveiller ça également. Deux posts antagonistes, j'ai trouvé ça plutôt marrant et c'est pour ça qu'on les a publiés côte à côte l'un après l'autre. Watcher Guru qui disait que BlackRock met en avant que les stablecoins pourrait renforcer justement le dollar américain et sa dominance, et la BCE avec Journal du Coin qui alerte que l'usage croissant des stablecoins adossés au dollar dans l'UE pourrait tout simplement affaiblir la souveraineté monétaire européenne, appelant à accélérer le développement d'alternatives en euros comme le fameux euro numérique, dont aux États-Unis eux ne veulent pas entendre parler puisque c'est acté dans le fameux Genius Act qui a été signé récemment. Donc vraiment, ces deux postes, c'est assez diamétralement opposé et représentatif de ce qui est en train de se passer entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre. Munir Lagoon, donc de Finari, la Norvège est-elle devenue trop riche? Un fonds souverain colossal de 1685 milliards d'euros, un pays qui pourrait vivre un âge d'or, mais derrière une fortune exceptionnelle, une crise silencieuse émerge. Je vous laisse consulter le long post qui est comme d'habitude très intéressant. Les inflows du côté de Glassnode qui ont drop de 80%, donc la semaine dernière, les dérivatifs qui continuent d'être élevés et les data on-chain qui démontrent que quasi tous les bitcoins supply sont en profit. Là aussi, je vous laisse seul juge de ce que vous en retirez comme scénario pour la suite, mais on est peut-être dû en effet pour une consolidation sur un mois d'août qui historiquement, et là on re-rentre dans la saisonnalité, n'est pas terrible en général pour le marché crypto. Après, comme vous l'avez vu ces 4 dernières années, on a tendance à se faire un peu prendre à revers, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. La SEC, donc, qui avait bel et bien repoussé les ETF du côté de l'ETF Truth Social Bitcoin et Grayscale Solana. Donc là aussi, je suppose qu'ils attendent la rentrée pour y voir un petit peu plus clair, et rentrée qui dira peut-être aussi, je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à la baisse de taux potentielle de la Fed et de Jérôme Powell. Ne nous excitons pas, le consensus dit qu'il n'y aura aucun mouvement aujourd'hui, aucune baisse de taux, aucune décision hâtive. Donc je suppose que ça va rester là aussi comme ça en statu quo jusqu'à la rentrée. d'entrée. Toujours en mesure on-chain avec le long term holders 30 jours, la position nette au niveau des changements et on a une distribution qui commence. C'est normal, on n'est pas sur un pic de distribution des whales, mais on voit que autour de 120 000 $, bien entendu, que ça les intéresse pour vendre. Au plus on montera sur Bitcoin, 125, 130, etc., au plus ce sentiment va se renforcer jusqu'à ce qu'un jour il y ait un déséquilibre et que derrière il y ait une correction un peu plus majeure. Donc c'est quelque chose à observer de notre côté et qui confirme le fait que nous sommes potentiellement voilà, sur un début de prise de profit des très très gros portefeuilles et des portefeuilles long terme, normal puisque, comme on vient de le voir, quasi 100% du supply de Bitcoin est en profit. Air Liquide qui publie de très bons résultats, donc dans l'air du temps et dans l'air de toutes leurs projections justement sur des dizaines d'années. Donc on a un revenu avec un net profit qui est autour de 1,8% et un recurring net profit qui est lui autour de plus 10%. Vous avez également l'infographie complète de l'analyste curieux et quelques autres qui fournissent ça régulièrement. Je rappelle également que sur le site directement de Air Liquide, si vous êtes au nominatif et que vous avez à minima 10 actions de Air Liquide, tous les 2 ans, ils vous en offrent une gratuite en plus des dividendes et de tout ce qui va bien. Donc en termes de rendement, on est sur une volatilité avec un écart type qui est à plus ou moins 10% sur des dizaines d'années et qui justement bat l'indice par rapport au CAC 40 puisque on a un écart type de volatilité qui est plus important sur le CAC 40. Ce qui veut tout simplement dire en résumé que Air Liquide progresse plus coulé au travers du temps et quand le CAC 40 chute, Air Liquide a tendance à chuter un petit peu moins. On vous avait posé cette question et il semble que c'est un moment opportun au vu justement des marchés qui sont sur des points hauts de nouveau et des indices qui ont repris entre des plus 30 à plus 40%, c'est complètement fou quand on y pense. Si on vous donnait aujourd'hui 100 000 euros et que vous pouviez les investir quand vous le souhaitiez, le tout avec en effet des marchés qui sont sur leur point haut et en découverte de prix, combien de temps seriez-vous prêt à patienter pour entrer au bon endroit, au bon moment, un moment opportun et on va dire sur un moins 20% généralisé? Alors il y a pas mal de personnes qui ont répondu notamment favorablement au DCA, d'autres qui disent par rapport à un lump sum immédiat, puisque la plupart du temps, on voit qu'en effet, le lump sum est la solution au très long terme, en tout cas, on va dire sur 10 à 20 ans à minima. Pour ceux qui jouent un peu plus le moyen terme, sur 1, 2, 3, 5 ans, là, ça peut être plus difficile de justifier un lump sum et notamment en payant un point haut. Alors vraiment, c'est l'échelle de temps qui va faire toute la différence, bien entendu, par rapport à ça. Et c'est là où le DCA, en effet, peut avoir son importance. On avait regardé de notre côté sur le Discord avec des graphiques à l'appui et notamment un lump sum qui aurait été fait il y a 20-25 ans est un petit peu en avance notamment sur les indices par rapport à quelqu'un qui aurait fait tout simplement un DCA. Donc c'est quelque chose qui peut se discuter, mais à aujourd'hui, je suppose que quand vraiment on prend en considération la dimension que tous les à peu près 4 à 6 ans, on a en effet du moins 20% et plus, comme on l'a eu notamment en 2020 au moment du crack Covid, comme on l'a eu, je crois qu'il y en avait eu un autre en 2018, il y avait eu 2008 avec les subprimes, il y avait eu 2000 avec la bulle Internet, il y a eu 2022, mais c'était plus une correction un peu coulée avec donc le resserrement de tout ce qui allait arriver par la suite au niveau du quantitative tightening du côté des États-Unis, etc. Vraiment, on avait cette peur de resserrement de liquidité, la récession, le hard landing, tout le monde était un peu crispé en 2022. Et ensuite, il y a eu des itérations plus petites comme le Yen Carry Trade en août 2024 et plus récemment, donc début avril 2025, les tarifs de Trump qui ont fait reculer les marchés de moins 20% de nouveau en moyenne. Donc vraiment, les baisses de moins 10%, on est autour de 2 ans à peu près, 2 ans et demi en moyenne toujours. Et si on regarde sur 25, 30, 50 ans, ça peut un tout petit peu évoluer, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et les baisses de à minima 20%, on a entre 4 et 6 ans, voire 7 ans, selon les zones justement qu'on prend, si on prend plutôt 25 ans ou si on remonte à 50 ans et plus. Donc c'est quelque chose vraiment à avoir en tête. Et la question à aujourd'hui, notamment si les marchés venaient à être moins favorables que ce qu'ils l'ont été depuis 2020 sur ces 5 dernières années et que 2025 à 2030 soit un peu des années de disette du côté de ces fameux indices qui, selon les grandes banques d'affaires, ne viendraient plus abonder que des 1 à 3% au lieu d'avoir des dizaines de pourcents ces 5 dernières années. Comment les particuliers réagiraient ? Est-ce qu'ils seraient prompts à attendre justement plusieurs années pour petit à petit injecter au bon endroit, au bon moment, notamment si on venait à avoir un grand range du côté des indices ? Voilà, c'est là toute la question et c'est là où l'on voit, même nous pour le marché crypto qui est beaucoup plus accéléré et sur lequel ça se passe à peu près de 2 ans en 2 ans, et pour un point d'entrée optimal et pour un point de sortie optimal, en tout cas c'était plutôt pas mal régi jusqu'ici en effet par ce fameux cycle de 4 ans. Est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont prêtes à attendre au moment où elles ont du capital, ne serait-ce que 1-2 ans, pour justement tirer leur grosse cartouche au bon endroit au bon moment? Et dans un monde où tout va trop vite et tout le monde est impatient, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est possible de votre côté, justement, d'attendre comme ça un moment opportun de marché, un peu comme on l'a eu très récemment, justement, autour de ce début avril, avec les droits de douane de Trump, qui vraiment ont fait un peu flipper l'ensemble des marchés, grosse prise de profit, des points d'entrée qui ont été assez remarquables, et derrière un rebond qui l'a été d'ailleurs tout autant. On terminera avec 3 petites infos, PayPal qui lance Pay with Crypto, qui permet aux commerçants américains d'accepter plus de 100 cryptos avec conversion instantanée en fiat ou stablecoin et seulement 0,99% de frais, réduisant les coûts transfrontaliers jusqu'à 90%. Ça, c'est assez énorme quand on sait à quel point PayPal est bien distribué aujourd'hui. Danke Crypto Trade qui nous parlait des horaires avec les meilleurs retours pour le Bitcoin. Donc, ça se passe plutôt autour de 17h en général et entre 8 et 9h le matin. On a un petit peu 21h, 22h le soir. Ça peut être notamment autour de la clôture des États-Unis. Les plus mauvais retours se passent à 0h, 13h et autour de 23h, donc juste ensuite, pour ceux qui font là aussi du trading un peu plus court terme et que ça peut intéresser au niveau de ces itérations. Il y avait également précédemment des jours qui étaient plus favorables pour ceux qui font notamment leur DCA. J'ai pas retrouvé l'infographie pour l'instant, mais je vous le publierai dans la prochaine émission si je retrouve ça entre temps. Et on clôturera au niveau des news avec Interactive Brokers qui voudrait activer donc la possibilité d'abonder son compte directement en stablecoin et crypto pour un funding 24/7. Là aussi, c'est en train d'être pas mal discuté en ce moment, et même jusqu'aux actions, de potentiellement ouvrir la bourse en 24/7 comme l'est aujourd'hui, comme le sont les crypto-monnaies. Donc ça serait assez fou. Et donc, en guise d'intro de cette analyse technique, je voulais mettre l'accent en effet sur le VIX, puisque quand on voit ici avec le chart comparatif au S&P 500 juste derrière, on peut constater, même si parfois il y a des faux signaux, que quand on a des pics complètement fous au niveau du VIX, c'est-à-dire au-dessus à minima d'une centaine de points, eh bien ici en septembre 98, on avait eu un point bas. Ici également en septembre 2021, août 2002, point bas. Énorme pic ici qui s'est fait sur pas mal de temps avec 2008, les subprimes. Ça s'est fait jusqu'à 2009 même, mais c'était un peu spécifique. Là, on avait l'impression de nouveau que la finance entière allait exploser en plein vol. Point bas de juin 2010, point bas d'août 2011. Également ici, on avait eu août 2015, pareil, on était sur un point bas. C'est là où on commence à avoir des faux signaux, notamment en février 2018, et où l'on rentre dans une contraction de prix, ou du moins une ouverture en mégaphone entre décembre 2017 et autour de cette explosion 2020, au moment de ce fameux crack Covid. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que la volatilité était déjà énorme en février 2020. On sentait qu'il se passait quelque chose. Les algorithmes étaient probablement extrêmement excités et on a eu enfin, donc entre mars et avril, ce spike énorme avec une baisse de, on va dire, selon les indices, entre -30 à -50%. C'était énorme. On n'a pas eu le VIX qui est monté aussi haut qu'en 2008 malgré tout, mais voilà, ça nous a donné de nouveau un point bas. On a eu également d'août 2024 avec le carry trade qui nous a donné un petit point bas intermédiaire. Et on voit que de nouveau, le creux qu'on a eu autour de la première semaine d'avril ici nous a donné en effet vis-à-vis de ce VIX le point bas donc de 2025 pour le coup, puisque ça n'a pas duré très longtemps. On a eu un V-bottom d'anthologie. Mais voilà, c'est quelque chose qui est suffisamment pertinent de mon côté, je suppose. Et quand on regarde les travaux aussi de ceux qui l'ont fait sur les charts que je viens de vous nous montrer à l'instant sur Twitter. Ça peut être quelque chose à garder de notre côté en tête pour quand il y a des mouvements extrêmes de marché. Et également, quand on revient sur la borne basse extrême qui est située là où l'on est en train de travailler actuellement, et même on peut aller encore un petit peu plus bas, en général, voilà, on est plutôt sur des mouvements qui sont en train de terminer leur phase haussière et on a des prises de profit par la suite qui viennent. Donc c'est un petit truc qui, pour le long terme, pourra toujours nous servir, je suppose. Et je pense qu'il y a des gens qui traitent que le VIX, justement, pour des retours comme ça de momentum et de grosse volatilité. La dominance des stablecoins qui aurait peut-être trouvé du support à l'approche, justement, des 0.06. On va voir comment ça va se passer, mais on a une petite stabilisation de ce côté-là. Tandis que le crypto total est en train de faire son petit pullback sur la zone de sortie des 3750. On est à 3820 ce matin et c'est la petite traîne de 3 points hebdomadaires qui, pour l'instant, fait office de barrage autour des 70 de RSI. Donc là, on est vraiment sur des algorithmes qui disent « Bon, on a pas mal pris de risques tous ces temps-ci, c'est peut-être le moment de commencer à se payer. » C'est pas, pour l'instant, la dégringolade, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on a quand même des portefeuilles qui petit à petit distribuent. La dominance de Bitcoin s'est stabilisée autour de la moyenne mobile 50 hebdo qui se trouve à 60.5% et on est de retour à 61.5%. Donc une dominance Bitcoin qui certes a perdu 5 points en un mois, mais qui pour l'instant est en train de se stabiliser. Et finalement, la représentation de ce qu'on voit sur le crypto total se transmet plutôt pas mal du côté de Bitcoin. La consolidation des 120K à plus ou moins, on va dire, aller 5000, puisque ça peut faire le yo-yo entre 125 et 115. Et on peut même revenir quelque part autour de 108, 110 sans que ça soit non plus dramatique. Une moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui à 100K, une moyenne mobile 50 à 90, une 100 à 71 et une 200 autour de 51 000. Et on voit que le RSI, eh bien pour l'instant, pareil, nous fait une petite oreille de chat sur les 70. Ça ne veut pas sortir et c'est là où il va falloir faire super gaffe sur l'ouverture justement de ce mois d'août. Pareil pour Ether, on bloque sur les 70 de RSI, les fameux 3900 qui pour l'instant font office de barrage. Donc les 4000, ça va pas être si facile que ça apparemment. Il y a des inflows assez conséquents. Je suppose qu'il arrivera quand même à se construire quelque part entre les 2009 et les 3008 qu'il travaille actuellement. La médiane se trouverait quelque part autour de 3003-3005. À voir comment ça se matérialise, mais ça ne semble pas vouloir passer immédiatement, même pour Ether. Le dollar qui petit à petit essaie de se défendre ici, et vous l'avez certainement vu, donc en ayant un DXY proche de 99 points, le WPEA et le CW8 d'Amundi côté en euros sont en train de rebondir puisque l'euro a perdu un petit peu. Donc c'est un peu les vases communicants. Là aussi, on n'est encore pas arrivé par rapport à cet ATH, et d'autant plus si par la suite on venait à avoir une petite correction pour l'ensemble des marchés, bien entendu que malheureusement ça en subira aussi un peu les conséquences. Donc c'est peut-être août qui va permettre là aussi d'apaiser un tout petit peu tout ça, en espérant bien entendu que la rentrée continue sur la dynamique qu'on a connue jusqu'ici. Le gold pour sa part continue dans sa petite box juste au-dessus de 3300$ l'once, pas plus pas moins. On a la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver, mais voilà, il faudra le laisser corriger lui un peu plus profondément pour commencer à s'y intéresser. Au niveau des actions américaines, on a MSCI, ICE, Google, AMD qui sont dans le vert. D'ailleurs, AMD qui a fait un très très beau rattrapage par rapport à Nvidia. On n'en parle pas beaucoup de AMD, mais c'est quand même un 140%. Donc on est plus ou moins dans les clous de ce que nous a fait Ether par exemple récemment. Ça n'est pas rien. Et c'est des trucs comme ça qui parfois passent un peu à la trappe vu l'engouement qu'il y a notamment sur le pont sur Nvidia qui a dépassé allègrement les 4000 milliards de capitalisation. Take-Two qui est en train de faire un petit pullback sur la moyenne mobile 20 autour de 224$. On pourrait même visiter la zone de sortie des 215. Est-ce que GTA 6 va apporter véritablement le grand renouveau, notamment pour le studio et en termes de flux financiers? Là aussi, c'est hautement spéculatif puisque depuis l'annonce de GTA 6, on avait progressé d'environ 90% pour Take-Two. Du côté des actions FR, comme on l'a vu tout à l'heure, un Air Liquide qui continue de faire le petit train doucement mais sûrement, chaque dip est payé. La dernière fois où vraiment c'est descendu très bas, c'était en 2022 justement, 104-105€, on était venu légèrement faire la déviation sous la moyenne mobile 200, mais sinon on voit qu'en général c'est la moyenne mobile 100 qui est payée. Il n'y a pas si longtemps, en décembre 2024, c'était 155€. Là on a eu la moyenne mobile 50 à 170, on est cloisonné entre moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50, donc un Air Liquide qui en effet au travers du temps se développe vraiment plutôt pas mal, et des investissements qui ont été encore signés récemment. Et tiens d'ailleurs, en parlant parlant d'Action française, on a AltBG, on n'en entend plus parler sur les réseaux sociaux et je comprends pourquoi. The Blockchain Group qui a déjà reculé de moins 56%. Alors quand on regarde comme ça en logarithmique, ça peut paraître énorme, mais quand on regarde comme ça en arithmétique, pour le coup, ben, on voit à quel point la descente ADA a été monstre. Hein. On vient de 6 euros, on est à 2,60 €, on a la moyenne mobile 20 qui passe à 2,50 € avec le gros support long terme. Donc peut-être enfin un point d'entrée pour The Blockchain Group qui, pour le coup, peut être acheté sur un PEA français, là, pour le coup. C'est pour ça que ça fait office de proxy et de pseudo ETF à la française, puisqu'ils ont beaucoup de Bitcoin en stock. Après, qu'est-ce que va devenir la boîte en tant que telle et la gestion? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on voit que, alors que le cours du Bitcoin a progressé ces dernières semaines, là, depuis voilà, à peu près un mois et demi, on a reculé de 56% pour AltBG. Du côté des Alts, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. On est dans une consolidation. On a peut-être Pendle qui est en train de finir ce qui pourrait s'apparenter à une TA séance ici. Un beau joli premier creux, un deuxième creux à peu près à 50% du premier et la résolution qui se trouverait quelque part entre 4,6 et 4,9 dollars pour Pendle. Donc à voir pour la suite. Hein, on est sur un domaine ici qui est lié directement à la finance décentralisée et comme d'habitude, je vous donne des idées mais je ne vous pousse pas à l'action. Je vous laisse seul juge ensuite de faire vos propres recherches et d'aller voir notamment dans les fondamentaux pour allier systématiquement ceci, ces derniers, à l'analyse de prix qui nous démontre aussi que la Pendle a une action de prix qui est plutôt propre pour le coup. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve d'ici ce week-end. Je suppose que août va nous laisser un petit peu tranquille pour les marchés en croisant les doigts pour que justement ce fameux VIX qui est très bas revienne pas sur une volatilité négative des enfers, ce qui aurait pour mérite de nouveau de tétaniser un peu les participants au marché. On espère désormais qu'en effet la digestion se fasse à présent enfin en ventre mou comme on l'avait un peu en juin. On digère tout ce qui vient de se passer, on digère les 120K pour Bitcoin, les 3005-3008 pour Ether et peut-être qu'entre septembre et octobre on aura un petit peu mieux, mais je reste quand même voilà, super prudent quant aux objectifs et à la finalité quelque part, j'allais dire la terminaison, mais on ne sait pas si ça se terminera véritablement fin 2025, début 2026. Voilà, le but n'est pas de faire de la boule de cristal ou de la cartomancie, mais d'essayer de nous cadrer quant à tout ça et d'avoir des objectifs qui sont réalistes. Je vous dis à ce week-end et très bonne journée. Ciao, ciao.